les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Notre compréhension de l'univers repose sur deux piliers, la théorie de la relativité générale et la physique quantique. Deux constructions théoriques dont l'exactitude est aujourd'hui vérifiée avec précision, mais qui ne se parlent pas, qui s'ignorent si l'on peut dire. Certains chercheurs, comme le physicien italien Carlo Rovelli, s'emploient à combler ce vide. Entre autres directeur de recherche au CNRS et professeur à l'Université de la Méditerranée à Marseille, Carlo Rovelli a développé avec l'Américain Lee Smolin la théorie de la gravitation quantique à boucle, visant en quelque sorte à unifier la relativité générale et la physique quantique. Même si tout cela reste largement mystérieux et incompréhensible pour la plupart d'entre nous, le ciel s'éclaire un peu en écoutant Carlo Rovelli au micro de Stéphane Delis-Georges dans Continent Science. Au détour d'une conversation peuplée de boucles, de trous noirs, de grains d'espace, de cordes et de réseaux de spin, surgissait une fascinante question qui est aussi le titre d'un ouvrage de Carlo Rovelli « Et si le temps n'existait pas ?» Sur quelques objets étranges de la nouvelle physique, avec Carlo Rovelli, dans Continent Science de Stéphane Delis-Georges, en janvier 2013.
À notre sommaire aujourd'hui, eh bien, suite des investigations concernant des théories physiques avancées, pointues, pas encore vérifiées, absolument passionnante, et cela en compagnie de Carlo Rovelli. Il est au laboratoire de physique théorique de Lumini près de Marseille et il est l'auteur d'un livre « Et si le temps n'existait pas ?» avec comme sous-titre un peu de science subversive. Bonjour Carlo Rovelli.
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
Mais je vous en prie, pas trop de soucis pour venir de Marseille avec ces jours de neige.
Non, sauf le froid.
D'accord, et vous avez fait attention aux glissades. Alors en tout cas, nous voilà face à nouveau à des explications, en tout cas des avancées théoriques vis-à-vis desquelles nous allons faire comme nous pouvons avec nos intuitions ordinaires et les contrarier, ces intuitions, et donc de plonger dans le contre-intuitif d'une certaine manière. Est-ce qu'on pourrait, pour arriver à cette théorie quantique, cette théorie de la gravité quantique à boucle, est-ce qu'on pourrait commencer peut-être par... ça me fait penser d'ailleurs, tiens, vous, l'italien, ça me fait penser à un titre célèbre du grand Galilée, le système du monde. Donc les deux grands systèmes du monde aujourd'hui, évidemment, ce sont... La théorie quantique et puis la gravité, la gravitation, c'est bien ça. Tout l'édifice d'explication du monde s'appuie sur ces deux théories-là.
Oui, certainement. Tout l'édifice de l'explication du monde que nous avons aujourd'hui s'appuie sur ces deux grandes avancées du XXe siècle, qui sont la relativité générale d'un côté et la mécanique quantique de l'autre côté. Qui les deux marchent très 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 bien, et qui ont été vérifiés dans les dernières décennies de façon, je dirais, spectaculaire, et au-delà de ce qu'on s'attendait. Et donc, aujourd'hui, on est là, on a la mécanique quantique avec le modèle standard, et aujourd'hui, avec la découverte du X, on prend très au sérieux le modèle standard, le boson du X. Et donc, d'un côté, on pense avoir très bien compris le monde physique. De l'autre côté, il y a des grandes questions ouvertes et une des plus graves et des plus visibles, des plus frappantes, c'est que ces deux piliers ne se parlent pas et semblent presque en contradiction l'une avec l'autre.
Alors vous établissez au tout début du livre, pour installer cette théorie, Carlo Rovelli, vous introduisez Newton, bien sûr, qui, lui, va donc, premier temps, faire cette chose qui est absolument magnifique pour unifier la physique de son époque. En tout cas, il va postuler, bien sûr, d'un temps et d'un espace absolu. L'espace absolu, c'est une sorte de contenant dans lesquels les choses se font. Et puis d'un seul coup, vous introduisez, pour contrarier les choses, évidemment ce qui va se développer à partir du 19e siècle, en particulier sous le travail, on va dire expérimental, un peu phénoménologique du grand Faraday, puis institué, mis en superbes équations, il y en a quatre avec Clerk Maxwell, le physicien théoricien qui va donc lui unifier par le jeu de ces équations et le magnétisme et l'électricité. Et là va apparaître quelque chose, vous dites une nouvelle entité, qui est ce qu'on appelle un champ. Comment est-ce qu'on peut donner en première approximation une définition de cette notion très contre-intuitive et qui pourtant est une entité qui décrit le réel d'une certaine façon, le champ? Qu'est-ce à dire, Carlo Rovelli?
Le champ est un peu le cœur de la physique fondamentale aujourd'hui. Et je pense justement, comme vous avez dit, on le comprend si on repart de Newton, de sa grande vision et des deux problèmes qu'il avait laissés ouverts. Bien avant la connaissance qu'ils étaient deux problèmes ouverts dans sa construction. Newton nous donne cette image du monde qu'il reprend des anciens, de Démocrite, de l'atomisme ancien, qui est l'espace, justement, cet espace, cette chose étrange dans laquelle nous vivons, qui est l'espace, où il y a des particules, des corps, attirés par des forces, qui agissent l'une sur l'autre par des forces. Et en particulier, il étudie la gravité. Il sait bien qu'il y a d'autres forces, donc il dit dans le futur, il faudra étudier d'autres forces, et c'est ça que font Maxwell et Faraday. Mais l'image du monde est très belle et très puissante. C'est-à-dire, tout peut être expliqué, en principe, propose Newton, avec l'espace, avec des particules qui agissent l'une sur l'autre avec ses forces. Donc, les deux problèmes sont quoi? Le premier, c'est comment ces forces peuvent aller d'une particule à l'autre. Comment fait le Soleil attirer la Terre? Comment fait la Terre attirer la Lune, par exemple? Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Dans notre intuition de tous les jours, pour tirer quelque chose, il faut une corde, il faut quelque chose entre les deux. Alors, comment c'est possible qu'en étant ici, la Terre attire quelque chose qui est là?
Oui.
Et Newton dit, bah, je ne sais pas, on va voir. Et l'autre question qu'il laisse ouvert, c'est que cet espace absolu, cette entité qui n'est pas une entité dans laquelle nous vivons, qu'est-ce que c'est vraiment? Qu'est-ce qu'est l'espace? Ça, c'est les deux questions ouvertes. Et Faraday et Maxwell trouvent, en étudiant l'électromagnétisme, donc l'autre grande force qu'on connaît, ils trouvent une réponse merveilleuse à la première question, en changeant le monde de Newton et en ajoutant une nouvelle entité. Ce qu'il propose, et qui va être très efficace comme façon pour décrire le monde, c'est de dire que le monde n'est pas fait d'espace et particules, d'espace et corps, mais d'un troisième élément qui est le champ. Donc le monde est fait d'espace, de particules et de champ. Et le champ, Faraday le visualisait comme un ensemble de lignes qui sortent des corps et qui rentrent dans des autres corps, qui sont partout. Donc il faut imaginer que le champ, c'est une entité réelle qui remplit tout, qui Faraday imaginait comme une espèce d'étoile d'araignée très dense qui remplisse tout, et que Maxwell décrit dans ses équations avec une petite flèche que nous avons étudiée à l'école. Le champ électrique, c'est une petite flèche dans tous les points de l'espace, qui est la direction de cette ligne, de la ligne de Faraday. Donc le monde a changé après Faraday et Maxwell. Il y a une nouvelle entité qui est le champ, qui est justement la réponse à la première question laissée ouverte par Newton. Un objet peut agir sur une autre, peut créer une force sur l'autre en ayant une influence sur le champ. Et le champ passe de l'une à l'autre, et c'est un peu comme la corde qui agisse entre deux particules, entre des objets.
Carlo Rovelli, vous donnez d'ailleurs deux schémas pour parler de ces lignes de Faraday qui donc constituent ce champ électromagnétique. Premier schéma où on voit des points qui sont des charges électriques. Et dans ce cas-là, évidemment, il y a ces petites cordes de Faraday, ces petites lignes de Faraday qui vont d'un point à l'autre avec, de manière adjacente à chacune de ces lignes, ce petit vecteur donnant la direction. Et puis à un moment, vous les supprimez, ces forces. Et vous dites que là encore, le champ existe. Simplement, Alors que avant, chacune de ces lignes de Faraday allait d'un point à l'autre, par exemple, hein, allait d'une charge négative et d'une charge positive, par exemple. Cette fois, si on enlève ces charges, eh bien, on conserve encore ces lignes de Faraday, mais elles se rebouclent sur elles-mêmes. Tiens, première image, première idée de ce qu'on va mobiliser après pour votre histoire de champ gravitationnel quantique avec ces théories à boucles.
C'est là que les boucles apparaissent, effectivement. C'est-à-dire, les champs existent, et ça, c'est la très grande intuition de Faraday, même s'il n'y a pas de charge. Le champ est une entité réelle, il est là, à tout moment. Donc, le champ agit sur les charges agissent sur le champ, ils influencent l'une l'autre, mais c'est comme un bateau qui est porté par la mer, et la mer qui est agitée par le bateau. La mer est là, même si le bateau n'est pas là. Donc les champs sont toujours là. Et les lignes de Faraday qui décrit ce champ, qui ont la propriété de terminer quand il y a une charge, d'entrer dans la charge, c'est comme ça que le champ est sans la charge. S'il n'y a pas de charge, peuvent se renfermer sur elles-mêmes et faire des boucles, et ça c'est l'origine des boucles, de la théorie des boucles finalement.
Oui. Alors, rapidement, il faut avancer d'un pas dans le développement. Évidemment, ce qui va se passer ensuite, eh bien, c'est le coup de génie d'Einstein. Et toujours avec ce que vous appelez, c'est-à-dire une boîte. Vous appelez ça une sorte de boîte contenant, hein, ce qui était l'espace absolu de Newton, avec les particules qui s'agitent dedans. Et là, avec l'introduction par Einstein de ce qu'on appelle un champ gravitationnel aujourd'hui, ces lignes de Faraday dont on a parlé avant, elles relient deux masses différentes. C'est bien ça l'idée. Et là, effondrement de l'espace absolu. On avait eu besoin, par exemple, à un moment, d'une entité dont on a démontré qu'elle n'existait pas, qui était l'éther. Et puis, une fois l'éther chassé, eh bien, on se retrouve devant une chose étrange avec ce qu'apporte Einstein, un champ gravitationnel.
Oui, parce que Einstein, c'est le coup de génie, comme vous dites très, très, très justement. D'abord, il comprend que comme les forces électriques sont portées par un champ électrique, il doit y avoir un champ gravitationnel pour porter les forces gravitationnelles. Donc, il doit être la même chose. La Terre attire la Lune parce qu'il y a des lignes de force du champ gravitationnel entre les deux. Mais à ce point-là, il a son coup de génie qui est de répondre à la deuxième question laissée ouverte par Newton. Qu'est-ce que l'espace ? Et là, l'intuition étonnante de Einstein, c'est de se rendre compte que on avait deux entités. Une entité, c'est le champ gravitationnel qui, lui, il voulait décrire, trouver les équations pour l'espace. L'autre entité, c'était l'espace de Newton. Et il comprend que ces deux entités, finalement, ne sont qu'une, sont la même chose. Donc, ce que Newton avait appelé espace, c'est rien d'autre que le champ gravitationnel. Et le champ gravitationnel, c'est l'espace, avec la différence par rapport à Newton, que maintenant, c'est une entité dynamique. Ces lignes peuvent bouger, il y a une équation qui les décrit, peuvent faire des vagues, peuvent être influencées par la présence des masses et au contraire, déterminent le mouvement des masses. Donc finalement, encore une fois, le monde change. Il n'y a plus espace-particule, il n'y a plus espace-particule et champ, mais il n'y a que des particules et des champs. Et le champ gravitationnel, quand on néglige un peu sa dynamique, c'est rien d'autre que l'espace que Newton avait introduit comme la table sur laquelle bougeaient ces particules. Donc maintenant, le monde est fait que de champs et de particules.
Suite de ce rendez-vous avec Carlo Rovelli, toujours autour ou en approchant lentement vers cette conception théorique qui est donc la gravité quantique à boucle. Et donc nous allons voir. Alors, évidemment, ce qu'on ne va pas pouvoir éviter maintenant, c'est un petit mot sur le deuxième pilier. En retenant quelques idées, arrive la mécanique quantique, qui, elle, va introduire des choses extrêmement fortes, en particulier, et selon un de ses aspects, cette mécanique quantique qui dirige le monde microscopique, a une particularité, c'est que tout y est discontinu. On peut prendre l'exemple habituel, hein, quand on a un atome, les électrons qui tournent autour ne peuvent pas prendre n'importe quelle place, ne peuvent pas avoir n'importe quel niveau d'énergie. C'est un petit peu comme si avant, on avait une conception d'une balançoire qui va à son pas de façon continue, et que là, la balançoire quantique, c'est une image facile mais qu'on va répétant, nous, les popularisateurs de science, une balançoire qui peut aller que de 50 cm à 1,30 m, puis ainsi de suite. Donc elle fait des sauts comme ça, et elle ne peut pas occuper continuellement tout l'espace. Donc, d'un seul coup, tout devient granulaire. Bien sûr, on sait que la mécanique quantique décrit les choses et comme onde et comme corpuscule. En tout cas, on peut retenir là l'idée de quantification, c'est-à-dire donc une unité bien particulière dont un des exemples flamboyants, bien sûr, est le photon dans cette affaire. C'est-à-dire cette unité qui d'ailleurs est l'unité qui transporte les choses dans l'électromagnétisme, c'est bien ça. Hein. Donc la révolution quantique, vous la caractérisez par quoi pour la mettre en perspective vers ce sur quoi s'achemine cette théorie quantique de la gravitation ?
Oui, c'est la quantification, le quantum, l'existence des graines, des
choses. Granulaire,
le
oui.
granulaire, la granularité. Et ça sort de là, parce que le premier article, toujours d'Einstein, 1905, sur là, qui comprend que l'ancienne vision du monde doit changer, et justement l'article dans lequel Einstein introduit le photon, il l'appelle pas encore comme ça, il se rend compte que les ondes des lignes de Faraday et de l'électromagnétisme, en effet, si on le regarde dans les petits, sont formées des petites graines. Des petites graines qui sont... Et là, on arrive à ce que la théorie de la gravité quantique, à ce point-là, ça devient presque évident, va nous dire. C'est-à-dire, si l'espace de Newton, est en réalité un champ, quelque chose de dynamique, comme le champ électrique, quelque chose qui remplisse tout et a ses propres équations de mouvement, et si les champs électromagnétiques sont formés dans le petit des grains, en mettant les deux idées ensemble, ça veut dire que l'espace lui-même doit avoir une structure granulaire. L'espace qui est le champ de gravité doit avoir une structure granulaire. Et la théorie des boucles, c'est une théorie de mathématiques qui décrit cette structure granulaire de l'espace. L'espace est décrit par des réseaux qui s'appellent réseaux de spin pour des raisons techniques. Donc les nœuds sont ces graines d'espace.
Alors, évidemment, vous avez le virus assez tôt. Vous racontez, vous entremêlez dans votre ouvrage, qui est pour partie biographique, autobiographique, Carlo Rovelli, et votre itinéraire de physicien. D'abord, alors, vous avez été une sorte de romantique, un petit peu exalté. Vous êtes parti faire le tour du monde tout seul. Les hippies barbus et rêveurs vous plaisaient bien. D'ailleurs, vous avez aussi été un des promoteurs, un des pionniers des radios libres.
Oui.
Et c'était à Bologne, non ?
C'est oui, ça, c'était hein à Bologne, à Radio Alice.
D'accord.
Oui.
Donc vous êtes un peu collègue là de ce point de vue.
Hein.
Vous
avez, collègue.
Voilà,
oui.
Vous avez.
C'était un peu plus petite là.
Oui. Et donc la physique s'empare de vous, vous saisit et là vous allez tomber sur ces phénomènes qui se passent. Alors autant le dire, ça va paraître très très abstrait, mais grosso modo à 10 puissance moins 33, c'est-à-dire qu'il faut un espace de temps, d'espace-temps en tout cas, incroyablement petit. On le trouve où ? Eh bien, on le trouve dans des conditions extrêmement limites, c'est-à-dire aux approches du Big Bang, dans certaines situations des trous noirs. C'est-à-dire que le moment où va devoir se confondre, et ce que vous cherchez de façon permanente, Carlo Rovelli, avec évidemment ceux qui ont travaillé sur ce thème, qui travaillent encore avec vous, c'est ce moment extrêmement particulier où, eh bien, l'espace et le temps vont devenir quantiques. Et donc, il va falloir trouver enfin cette espèce de Graal qui est recherché par beaucoup de physiciens avec des voies différentes. Vous, c'est donc cette théorie quantique à boucle. C'est donc d'allier cette gravitation avec les autres forces, d'une certaine manière, une unification des forces. Et en tout cas, ça se passe à un moment très singulier. 10 puissance moins 33, ça donne le vertige, ça fait 10 puissance moins 33 zéros.
Hein.
On
ne
va
le...
pas aller nier les milliards, hein, là. Hein.
Ça donne le vertige. Quand j'étais étudiant, j'avais mis un petit morceau de papier coloré, un rouge, sur mon mur de ma chambre. C'était écrit 10 moins 33. Et finalement, vous rappelez mes folies, mes rêves de jeunesse, mais le métier de chercheur, ça change pas beaucoup par rapport. C'est un peu le même parcours qui continue. C'est toujours l'aventure, la rébellion, et chercher d'aller là où on n'est pas encore arrivé, arriver un peu plus loin, au-delà de la colline. Et 10-33, c'est très petit, c'est 10-33 centimètres, c'est une dimension très très petite. C'est là où nous savons que la théorie d'Einstein toute seule et la mécanique quantique toute seule n'arrivent pas à nous donner une description de ce qui se passe. Donc en réalité, si on n'utilise que les théories que nous avons aujourd'hui, on ne sait rien. Et là, il faut justement construire des théories nouvelles. Et la théorie des boucles cherche cette description de ce qui se passe. Donc les grains que je vais commencer à parler, les grains d'espace, ce sont des très petites minutes quanta, des atomes d'espace, que nous pensons, si on croit à la relativité générale et à la mécanique quantique, nous pensons que constitue la structure fine de l'espace et qui nous permet de faire des calculs sur les choses que nous ne comprenons pas encore, comme les propriétés thermiques des trous noirs, comme le début de l'univers, etc.
On va redonner un petit peu de chair à tout ça. Donc, en tout cas, vous tombez sur une équation très célèbre qui porte deux noms, hein, deux patronymes. C'est l'équation de Wheeler-DeWitt et qui pose donc c'est la question hein, de façon générale de cette gravitation quantique. Et puis ensuite, vous voulez absolument rencontrer un autre physicien théoricien qui est en Angleterre, qui s'appelle Chris Isham. Et puis ensuite, vous partez cette fois aux États-Unis pour l'université de Syracuse. Et là, vous rencontrez un autre très très grand physicien qui s'appelle Lee Smolin. Alors, pardon de passer, mais vous le racontez dans le livre, donc on va rien trahir, bien évidemment. Vous recevez un coup de téléphone juste avant de partir aux États-Unis. Vous avez votre fiancée, elle vous dit « je romps ». On arrête.
Oui.
Et vous arrivez devant ce très, très, très grand physicien. Et puis, vous commencez à expliquer vos affaires parce que vous êtes évidemment fou de joie d'aller là-bas et vous êtes absolument triste. Du coup, de téléphone avec la fiancée, vous mettez à pleurer à chaudes larmes devant lui et vous dites, ne vous inquiétez pas, il m'est arrivé la même expérience.
Oui. Et on est devenus amis. Comme
et vous êtes devenus amis pour les pertes des fiancées respectives. Et là, donc, vous allez commencer à travailler avec lui. Alors, je vais faire une citation. On arrive à cette première idée. Ces boucles correspondent donc aux lignes de Faraday du champ gravitationnel quantique. Cette fois, là, on avait des boules individuelles, non de l'ensemble continu de lignes de champ classiques. Ces boules ne sont pas dans l'espace, alors on va devoir le répéter plusieurs fois, mais elles sont l'espace lui-même. C'est vraiment contre-intuitif pour nous déjà, hein, là, ce point, c'est compliqué. Hein. Alors vous faites un petit modèle pour ça, avec des anneaux, pour mettre des clés, et vous les emmêlez. Donc c'est ça, il faut voir une espèce de treillis, de tissage de petites boucles, c'est ça. Et c'est l'espace lui-même, ça. Quand on retient l'idée du discontinu qui caractérise le quantique, et puis, qu'est-ce que c'est compliqué.
C'est l'idée centrale. Vous avez centré l'idée centrale très bien. C'est-à-dire, les photons sont des graines de lumière qui bougent dans l'espace. Mais là, on est en train de parler de quelque chose de différent. Ce ne sont pas des graines de quelque chose qui bouge dans l'espace. Ce sont des graines qui forment eux-mêmes l'espace. Il faut penser l'espace comme un t-shirt qui, si on la regarde de près, est tissu par des structures plus fines. Et ces graines qui sont liées l'une à l'autre par une structure à réseau. Mais encore une fois, et c'est le point sur lequel vous insistez, il ne faut pas penser à un réseau dans un espace. Il n'y a rien que ça. C'est ça l'idée. Donc, il faut sortir de l'idée d'un espace continu dans lequel les choses existent. Et au contraire, penser, si on prend au sérieux cette théorie, si cette théorie est correcte, que la structure même de l'espace est granulaire. Donc, entre une graine et l'autre, il n'y a rien.
Vous expliquez que, bon, on a fait un premier schéma où ce sont les boucles. Et puis après, vous montrez donc que c'est l'intersection entre ces boucles.
Oui.
Qui devient primordial. Et là, on tombe sur ce que vous appelez, donc, à nouveau, sous le terme de grain d'espace, mais plus exactement sur ces réseaux de spin. Hein, c'est-à-dire que là, les choses ont évidemment avancé. Le premier article important, vous l'avez écrit avec Smolin.
Oui.
Et il voulait que vous écriviez un article tout seul, et vous avez dit non, on a eu les idées ensemble, et non, je refuse, on signera ensemble. Et là, vous l'avez trouvé, d'ailleurs, extraordinairement honnête dans la guerre que parfois certains scientifiques se mettent pour se voler quelques idées.
Oui, c'était une leçon de vie pour moi parce que moi j'avais commencé à lui dire des idées très 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 confuses, très floues et après on a travaillé ensemble pour des mois. Et finalement, on est arrivé au moment d'écrire l'article. Et il m'a dit, Carlo, si tu veux, écris la première version toute seule, parce que la toute première idée était la tienne. C'est qui était d'un côté une exagération, parce que j'aurais jamais rien fait sans lui, et de l'autre côté, c'était une démonstration d'une honnêteté absolue de sa part. C'est-à-dire, il voulait rien voler à moi, qui était un peu plus jeune. Et là, j'ai compris qu'on peut faire de la science sans se faire la guerre et chercher de voler les choses l'une l'autre. On peut faire de la science de façon complètement honnête. Et de là, j'ai eu confiance à lui pour toute ma vie. Et il y a beaucoup de scientifiques dans lesquels on peut avoir de confiance.
Pas de tous. Façon, oui, bien sûr. Alors, autre image, hein, toujours pour ces réseaux de spin, vous dites que c'est ça qui pourrait constituer le monde et que ces réseaux de spin fluctuent, vibrent, fourmillent. Et vous ajoutez un peu comme des points noirs et blancs sur une télévision analogique, hein, mais qui serait sans antenne. Donc, c'est une espèce de brouillard là où on voit les choses. Alors, essayons encore d'imaginer, donc, ces unités de temps quantique là, qui sortent, ou ces unités d'espace quantique conjuguées. Parce qu'on arrive à une situation extrême, c'est que d'une certaine façon, dans les équations, il n'y a plus de temps et il n'y a plus d'espace. C'est bien ça.
C'est bien ça.
Vous virez ces paramètres d'une certaine manière, ou en tout cas ces variables plus exactement. Et donc, qu'est-ce qui se passe alors? Ça veut dire que c'est une création permanente. Quelle autre image on peut donner pour définir ce brouillard qu'on voit sur une télévision qui marche mal, Carlo Rovelli?
Ben, ça c'est la partie probablement la plus difficile à digérer de la théorie, parce que nous avons l'habitude en physique, mais dans la vie aussi, dans notre vie, d'organiser tout en termes d'un temps qui passe. On date tout. On a l'horloge et à 5 heures se passe quelque chose, à 7 heures se passe quelque chose. Et nous avons cette vision du monde où à 5 heures, le monde entier est dans un certain état. Et après, à 6 heures, il est dans un autre état. Et je pense que déjà avec la relativité d'Einstein, mais beaucoup plus avec la gravité quantique, cette façon de penser le monde ne tient plus. Il faut rendre plus faible la notion de temps. Il faut le penser de façon de façon différente. Alors, qu'est-ce que reste? Reste l'idée du processus de changement. Les choses changent, évidemment. Mais changent dans chaque endroit à leur façon. Et il y a un ensemble de variables qui se transforment dans d'autres variables. Il n'y a pas toujours l'existence d'une variable particulière qui est le temps qui donne le rythme à tous les autres. Donc il faut un peu penser non pas comme une danse universelle de toute la réalité avec un seul directeur d'orchestre, mais chacun qui danse avec son voisin, dans un certain sens. Donc la théorie ne donne pas une évolution de l'état de l'univers dans le temps, mais donne les probabilités de passage entre certaines situations et d'autres situations. Donc la probabilité d'un processus. Ici, nous sommes en train de parler, quelque chose se passe. Ailleurs dans l'univers, s'il y a d'autres choses qui se passent, on peut avoir une influence sur les autres choses peuvent avoir une influence sur nous, mais il n'y a pas une contemporanéité, il n'y a pas un temps général dans lequel tout se passe.
Ça, on l'avait vu, pardon de vous interrompre, mais on l'avait vu avec la relativité, exactement, en particulier avec le paradoxe des jumeaux, ou en tout cas ce qu'on apprend avec la conception de quelque chose qui est l'espace-temps comme une entité tout à fait entière. D'abord, il n'y a plus une grande horloge qui bat la mesure et qui donc donne le pas à toutes les horloges, mais au contraire, qu'il y a des temps qui passe différemment selon les situations où on est. C'est le paradoxe des jumeaux. Et évidemment, alors vous utilisez la démonstration avec ce qui a parfaitement été démontré, c'est-à-dire que lorsque on a des pendules terrestres, elles battent la mesure ou elles battent le temps d'une certaine façon, et il suffit de mettre les mêmes pendules sur un satellite qui va donc un petit peu s'éloigner du champ gravitationnel de la Terre pour que le temps batte différemment, là, que le temps s'écoule différemment, et bingo, on a le GPS qui joue sur ce décalage.
Oui, exactement.
Donc les temps ne sont pas absolus, mais qu'ils se déroulent.
Bon, le temps ne passe pas de la même façon à une altitude différente. Aujourd'hui, avec les horloges très précises qu'on a, on arrive à voir ça à une différence d'altitude de 2 mètres. Donc on prend deux horloges, on met un mètre plus haut et on voit qu'il va un peu plus vite. C'est-à-dire le temps, un mètre plus haut, passe plus vite. Le temps passe différemment d'un endroit à l'autre, et cela commence à nous dire que notre idée intuitive du temps n'est pas correcte. nous avons l'idée un peu que le temps, c'est quelque chose de nécessaire pour penser le monde, qu'on ne peut penser le monde que dans le temps. C'est Kant qui nous a appris c'est une condition nécessaire pour
a priori de la
sensibilité. Pour la connaissance, exactement. Mais certainement, il y a des aspects de la connaissance qui dépendent du sujet, qui sont a priori, qui sont nécessaires. Mais ce n'est pas facile de dire lesquels sont a priori. Et le temps ne l'est pas. Au moins, le temps, dans la façon usuelle de le penser, ne l'est pas. Vous avez commencé en disant les aspects de la science contre-intuitif. Mais les voilà qui arrivent. Je pense que toute l'évolution de la science, de la grande science, a été des pas qui sortent de notre vision intuitive du monde. Du moment où on a appris que la Terre est ronde, donc il y a quelque part des gens qui vivent avec la tête en bas et les pieds en haut, etc., on s'est rendu compte que notre intuition élémentaire des choses est déterminée par nos expériences paroquiales, petites, ici.
Les plus proches, proximité.
De proximité. Et dès qu'on regarde un peu plus longtemps, plus loin, il faut changer notre façon de voir le monde. Donc la théorie nous demande de faire un effort, de repenser l'espace, de repenser le temps. Et dans les équations de la théorie, les variables espace et temps vont disparaître complètement. Et ça, ce n'est pas très compliqué, parce que finalement, on peut, au lieu de penser que à 2h30 je suis ici, je peux penser que quand
14h33
je suis ici, je peux penser que dans le moment où l'horloge est dans cette position là, je suis ici. Donc on peut traduire toutes les déterminations temporelles en relation entre les variables.
Shining through the trees. Don't the moon look lonesome shining through the trees? Don't your house look lonesome when your baby packs up to leave? Sent for you yesterday and here you come today.
Et ben voilà, passé le mi-temps de ce rendez-vous de Continent Science, toujours en compagnie de Carlo Rovelli, physicien théoricien qui travaille sur la théorie quantique, des boucles. Il y a un autre souvenir aussi, Carlo Rovelli, vous partez aux États-Unis, toujours des petits détails pointillistes comme ça de votre vie et de votre itinéraire. Et là, vous rencontrez le grand Wheeler et vous le rencontrez un matin, un petit matin blême, l'homme est déjà âgé. Un matin froid, et il vous dit c'est exactement comme ça que j'ai rencontré Einstein. Bon, il avait travaillé avec Bohr, enfin bon, physicien incroyable. Il a fini par être le collaborateur d'Einstein. Oui. Et il dit c'est ainsi que j'ai rencontré le grand Albert, un matin froid et blême, oui. Comme on se retrouve aujourd'hui.
Oui, il vient me chercher au bed and breakfast de Princeton où j'étais. Et la première chose qu'il me dit, c'est je suis venu chercher Albert Einstein le matin, bed and breakfast, de la même façon.
Alors, évidemment, on va obligatoirement arriver à un peu de sociologie des sciences qui vont appuyer les conceptions. Bon, si on voulait être plus conséquent, il nous faudrait infiniment beaucoup plus de temps pour rentrer dans le détail. Et là, on peut ne que renvoyer à votre ouvrage, Carlo Rovelli, pour mieux comprendre ce que c'est que cette théorie gravitationnelle quantique à boucle. Mais cela dit, donc, il y a une communauté active qui y travaille, mais vous dites que cette communauté, si on regarde sa taille, est sans comparaison avec une autre communauté qui travaille sur un autre front, avec d'autres hypothèses et d'autres modèles théoriques. Je pense bien évidemment aux cordes. Alors les cordes, c'est tout à fait différent, évidemment, des objets que vous manipulez, des entités. Comment est-ce qu'on peut les résumer? D'abord, jusqu'ici, on considérait que toutes les particules étaient ponctuelles. Et puis voilà qu'on change d'idée et qu'on va mettre des choses qui sont comme des petits bouts de ficelle à plus d'une dimension. Et non pas ponctuelles comme c'était avant. Et puis ces cordes vibrent. Mais elles vibrent dans quoi, Carlo Rovelli, ces cordes?
Ben, les cordes des théories des cordes vibrent dans l'espace. Et ça, c'est la grande différence physique centrale, je dirais, pour commencer entre les deux théories. Les cordes sont des petites ficelles qui vibrent dans l'espace. Donc, l'image du monde, c'est l'espace avec des cordes qui vibrent dedans. Tandis que les boucles semblent à première vue similaires, parce qu'on peut aussi les représenter, ces liens de réseau, comme des petites boucles. Mais ils ne vibrent pas, ils n'existent pas dans l'espace. Ils sont l'espace. Ils font partie de l'espace. Ils forment la structure de l'espace. Ça, c'est la première différence. Mmh. Une deuxième différence importante, je dirais, c'est d'objectif. La théorie des cordes est une théorie qui, dans un certain sens, est plus ambitieuse. Cherche d'écrire une théorie générale de toute la réalité, la théorie finale du monde, de mettre ensemble toutes les forces, la force électrique, électromagnétique, les forces nucléaires, la gravité, dans une grande théorie générale. Tandis que la théorie des boucles ne cherche que compléter l'image actuelle du monde, faire une théorie cohérente dans laquelle la relativité générale d'Einstein et la mécanique quantique se parlent et on puisse tout calculer, même si on a encore une théorie électromagnétique, une théorie des forces nucléaires qui sont décrites par des théories différentes qui ne sont pas unifiées. Donc la théorie de boucle cherche de compléter et de rendre d'avoir assez d'équations pour décrire tout et donc de mettre ensemble ce qu'on a appris jusque là tout simplement dans une vision générale qui est cohérente sans pour cela avoir l'ambition d'être à la fin de la physique et d'avoir une théorie super simple qui décrit tout en termes d'un objet unique.
Alors, pour caractériser les choses, grosso modo, ceux qui travaillent dans votre théorie sont plutôt des gens qui sont des spécialistes de relativité générale et qui sont venus donc à cette théorie des boucles par cette voie-là. Alors que vous dites que ceux qui travaillent sur la théorie des cordes sont plutôt ceux qui sont dans le modèle de la dynamique quantique, ainsi de suite, le grand modèle standard. Ouais, grosso modo, c'est les physiciens des hautes énergies aussi. Hein,
oui, les physiciens des particules. Oui, c'est ça. Des hautes énergies. Et les deux communautés portent des savoirs différents, aussi des visions du monde différentes. Je pense que la grande théorie d'Einstein, la relativité générale, a changé à fond la notion d'espace et de temps. Et évidemment, les deux communautés se reprochent l'une l'autre de ne pas apprécier quelque chose de fondamental, ce que les bouclistes reprochent aux cordistes, n'est pas apprécier au fond de la portée de ce changement de l'idée d'espace et de temps. Et donc, ce que la théorie des boucles est, c'est une tentative de refaire la mécanique quantique, la théorie des champs quantiques, de façon qu'il soit profondément cohérente avec ce qu'on a appris sur la réalité avec la théorie d'Einstein, la relativité générale d'Einstein.
Alors vous dites à un moment, Carlo Rovelli, que vous êtes dans une sorte d'enthousiasme, d'enthousiasme intellectuel à travailler, puis à d'autres moments, vous avez aussi une sorte de... comme une sorte de pessimisme, hein, un petit grain de pessimisme, allez, on va dire. Vous avez un pessimisme granulaire qui vient à certains moments, et vous vous dites, et si tout ça était absolument pas fondé? Alors la question qui se pose, je vais d'abord la poser à cette donc théorie des bouclistes, mais on pourra la poser aussi à celle des cordistes, puisque maintenant il y a deux clubs, hein, qui s'affrontent, ou en tout cas se confrontent. Où est l'expérience ? 10 puissance moins 33, est-ce que pour ce qui est de la théorie des boucles, il y a des lieux possibles, qu'on peut imaginer lointains, mais en tout cas envisageables, de vérification?
Alors, première chose, pour le moment, il n'y en a pas d'expérience, et c'est pour ça que soit l'une, soit l'autre, ce sont des théories, ce sont des tentatives. On ne sait pas si on est sur la bonne piste, on ne sait pas. Et ce qui est bien aussi qu'il y a des pistes différentes. La science a toujours marché comme ça, c'est-à-dire la science marche avec des hypothèses, des écoles, des discussions, des points de vue différents qui se comparent. Jusqu'au moment où il y aura des expériences qui confirment l'idée d'un côté et de l'autre, on sera dans le point d'interrogation. Cela dit, on l'espoir, c'est de trouver des points de possibilité de vérification, et l'espoir majeur aujourd'hui, donc il y a de l'espoir, c'est pas si impossible. Par l'astrophysique et encore plus par la cosmologie,
oui.
C'est possible. Et ce n'est pas absurde de penser que dans un nombre d'années petit, on puisse trouver des conséquences de ces théories. Et la fenêtre plus probable, vue aujourd'hui, c'est la cosmologie. Quand l'univers était très très petit, ces phénomènes de granularité de l'espace, etc., étaient très importants. Et donc l'effet qu'ils ont laissé sur les structures cosmologiques qu'on observe même aujourd'hui...
Le 3 degré K, par exemple,
voilà,
le célèbre...
le célèbre fond de radiation...
Fond de rayonnement cosmique.
Le rayonnement cosmique, qui a une structure compliquée, qu'on observe en détail.
Avec des nouveaux satellites, d'ailleurs. Hein, qui
avec
donc,
des nouveaux satellites.
Ont raffiné...
On va bientôt avoir des mesures beaucoup plus précises et beaucoup plus détaillé de ces structures cosmiques. Et on a l'espoir de pouvoir, avec la théorie, calculer comment devrait être, qu'est-ce qu'on devrait s'attendre, et après confronter avec les mesures et trouver du support aux hypothèses théoriques. Il faut se rappeler que la science a très souvent été dans la situation où quelque chose qui semblait impossible à vérifier, après quelques années, est devenu presque normal dans les laboratoires. L'espoir, c'est qu'on soit dans une situation similaire. Aujourd'hui, il semble très très loin, c'est 10-33 cm, mais peut-être dans quelques années, on pourrait y arriver.
Oui, ça fait penser, évidemment, pour revenir à Maxwell, bon, c'est pas énormément de temps, mais en tout cas, à partir de l'établissement de ces équations de l'électromagnétisme par Maxwell, il faut quand même attendre quelques temps pour que M. Hertz, en Allemagne, et on l'a vu de façon, d'ailleurs, de manière un peu compliquée avec notre rendez-vous précédent, avec Dominique Pestre la semaine dernière, pour que ça devienne des réalités de laboratoire. Compliquées. Mais
oui.
En tout cas, les ondes de M. Maxwell, elles ont attendu, elles aussi, pour être vues.
Elles ont attendu aussi,
mesurées.
Pour être vues. Et il y avait un moment, pas très longtemps, ça fait pas très longtemps, qu'on disait, oui, les atomes, en tout cas, on peut jamais les voir, les atomes, on peut jamais les mesurer, donc peut-être ils n'existent pas.
On peut dire la même chose, évidemment, c'est pas votre camp, mais on peut dire la même chose pour les cordistes, c'est-à-dire qu'eux aussi sont devant une situation extrêmement spéculative de l'état de l'établissement de la théorie, et ma foi, les preuves...
Non, pour les preuves, pour moi, il n'y en a pas. Et moi, je dirais qu'avec la découverte du boson de Higgs, il y a quelques mois, la ligne dans la sable qui fait la distinction entre les théories fiables sur lesquelles nous avons très grande confiance, qui sont le modèle standard, la relativité générale, la mécanique quantique, d'un côté, et les spéculations, qui sont les cordes, les boucles, la supersymétrie, de l'autre côté, est devenue très claire. C'est-à-dire, nous avons une partie de notre savoir sur le monde qui est bien supportée par l'expérience. C'est pas un savoir final, évidemment. Ça, c'est la science qui évolue. Et une partie qui est la partie spéculation. Et c'est très clair qu'il y a une séparation nette aujourd'hui entre les deux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de la spéculation. Il faut la faire, évidemment. Mais il faut bien savoir que pour le moment, c'est de la spéculation.
Vous êtes beaucoup passionné par la philosophie. Vous constatez qu'évidemment, pratiquement tous les grands physiciens du XXe, on peut commencer avec, je sais pas, l'attachement d'Einstein pour Spinoza et sa lecture assidue. Mais tous étaient donc formés aussi à la philosophie. Ils connaissaient leurs bons auteurs, bien sûr. Vous, c'est Anaximandre, puisque vous avez aussi écrit un ouvrage sur celui-ci, qui vous semble celui qui, d'un seul coup, va bouleverser absolument toutes les manières de voir le monde,
oui.
Avec son apeiron en particulier, ce qui est très difficile à traduire, mais l'indéfini, et puis la sphéricité de la Terre, des choses comme ça.
Oui, Anaximandre, moi je pense que c'est un grand génie de l'histoire de la pensée. C'est un peu au début du parcours de la science. Et c'est surtout celui qui a compris que le ciel n'est pas seulement au-dessous de notre tête, mais tout autour de nous. Donc la Terre, c'est un corps qui flotte dans l'espace sans tomber. Et donc c'est quelqu'un qui a compris que notre intuition du monde n'est pas nécessairement correct. Et avec la réflexion, l'observation, on peut se rendre compte que les choses sont différentes de comment ils nous semblent à première vue. Donc il a commencé ce parcours qui est le parcours dans lequel nous sommes encore aujourd'hui.
Ben écoutez, merci cher boucliste Carlo Rovelli d'être passé à ce micro et venu de Marseille. Donc le titre de l'ouvrage, il porte un point d'interrogation. Et si le temps n'existait pas, on a vu donc d'un seul coup que le temps fondait, comme l'espace d'ailleurs, avec ce sous-titre un peu de science subversive, le tout est publié aux éditions Dunod. D'ailleurs le livre sur Anaximandre est aussi publié aux éditions Dunod. Oui. Alors on peut vous demander de nous tenir au courant si d'un seul coup une avancée formidable apparaissait chez les bouclistes et ceux qui travaillent avec vous. En particulier, vous avez des jeunes qui viennent travailler avec vous.
Oui, beaucoup.
Eh ben, on peut que s'en féliciter. Voilà, merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était Sur quelques objets étranges de la nouvelle physique avec Carlo Rovelli dans Continent Science de Stéphane Delisgeorges, diffusé la première fois le 21 janvier 2013 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
Ressent-il sur les grilles l'amertume du citron?